Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux de ce moment ensemble et surtout avec le Seigneur. Alors nous allons dans quelques instants passer au moment de la parole de Dieu, mais avant nous allons prier pour remettre ces moments. Ce n'est pas un rituel, c'est une nécessité. On ne prie pas pour prier, pour combler, on prie parce que ça, c'est un temps dans lequel les capacités humaines sont inadéquates. Nous avons besoin de plus pour comprendre, pour saisir, pour avancer. Alors prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci en particulier pour toutes tes promesses qui s'accompliront toujours, pour ton plan parfait. Et nous te disons merci de façon générale pour cette parole que tu as inspirée par ton esprit. Seigneur, nous le croyons, nous le confessons et nous sommes aussi réjouis de ce trésor qui est entre nos mains, de ce trésor que nous pouvons partager les uns avec les autres. Merci Seigneur. Et en effet, nous sommes incapables de la comprendre, cette parole. Tu l'as inspirée, tu as conduit des hommes à écrire de ta part. Mais notre intelligence est tellement voilée, tellement encombrée, que nous avons besoin que ton esprit, Seigneur, nous aide à comprendre. Et bien plus, nous avons besoin que ton esprit conduise tout ce qui va être partagé maintenant. Nous avons besoin, Seigneur, qu'il puisse forger des sillons dans nos cœurs. Nous avons besoin de mieux te connaître, de mieux comprendre ta pensée, ta volonté. Nous avons besoin de croître avec toi. Nous avons besoin vraiment, Seigneur, d'un temps vraiment de rencontre avec toi. Pas un temps de parlotte, Père, mais un temps de rencontre avec toi. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons lire la Bible, et vous savez qu'il y a certains textes de la Bible qui sont passés, pas beaucoup, mais il y a certains textes de la Bible qui sont pratiquement passés dans la culture populaire. C'est-à-dire, ce sont des textes qui sont connus, oui, bien sûr, par les chrétiens, mais qui sont connus en fait par tout un ensemble de gens dans la société. Il y a plein de gens qui connaissent ce texte, plein de gens qui le citent même. Ça fait partie de ces textes qui ont transitionné dans la culture populaire. Et donc, non seulement ben, monsieur, madame, tout le monde connaît de loin à peu près cette histoire, mais en plus, vous autres, enfants de Dieu, chrétiens, vous savez l'expliquer du début à la fin, détail après détail. Mais nous allons quand même lire le texte ce matin. C'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11, où il est écrit « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Il y a une chose qui affecte énormément notre vie en général et notre vie spirituelle, et dont nous prenons très peu conscience, c'est notre regard. La façon dont nous regardons les choses, la façon dont nous regardons les gens, la façon dont nous regardons la vie est une caractéristique essentielle de notre existence. Notre regard détermine nos comportements, nos analyses, nos réflexions, nos fonctionnements, nos attitudes. Notre regard affecte nos raisonnements, nos réflexions et tout dans notre vie, absolument tout, est affecté par notre regard. C'est pas pour rien qu'en psychologie, une part du travail, c'est le travail sur le regard. Comment est-ce que je regarde les choses? Comment est-ce que je regarde la vie? Et une chose à noter avec notre regard, de très particulier, c'est que notre regard n'est presque jamais neutre. Il est extrêmement rare que nous puissions dire que notre regard est neutre. Il est extrêmement rare que nous puissions dire que nous ne pensons rien de quelque chose ou nous ne pensons rien de quelqu'un. En général, notre regard est coloré et il est coloré positivement ou négativement. Et c'est presque instinctif, on ne le fait pas exprès, mais naturellement, nous sommes faits comme ça. Nous avons un regard qui fonctionne et nous avons une émission de pensées et de choses sur les gens et sur les personnes autour de nous, qui peuvent être positifs ou négatifs. Ça peut être tout simplement « Oh, cette personne a l'air vraiment bien éduquée ». Ça peut être aussi « Cette personne n'a pas beaucoup de moyens ». Ça peut être « Cette personne est très cultivée ». Ou alors « Cette personne est très centrée sur elle-même, elle ne parle que d'elle ». Naturellement, nous allons penser ce genre de choses. Ou alors « Cette personne ne sait pas ce qu'elle fait, elle a l'air vraiment d'être à côté de la plaque ». Naturellement, notre regard est coloré, positivement ou négativement. Il n'y a presque rien dont on ne pense rien. Et cela est important parce que lorsque notre regard est malade, notre vie est malade. Et Jésus a dit que lorsque notre regard est dans les ténèbres, alors notre corps est dans les ténèbres. Donc lorsque notre regard est malade, toute notre vie est enténébrée. En d'autres termes, si je vois mal les choses, je pourris ma vie, je pourris mon âme, je pourris ma relation avec Dieu, je pourris mon avenir. Si je vois mal les choses, je pourris mon fonctionnement et je me mets dans des comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Le regard change tout dans notre vie. Pensez par exemple aux guerres dans lesquelles des gens s'entretuent. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on développe sur l'ennemi un regard particulier. Pensez aux génocides dans lesquels un même peuple se met à s'entretuer. On pense évidemment au génocide rwandais qui a été quelque chose d'horrible. Comment est-ce qu'à un moment donné, des gens d'un même peuple qui ont un même sang, qui ont vécu ensemble, peuvent se détester au point de se tuer, au point de violer des femmes devant leurs enfants, puis de les brûler? Comment est-ce que c'est possible? Le regard. À un moment donné, il y a un travail qui est fait, des discussions, des discours qui passent dans un peuple, qui modifient le regard, si bien que l'autre est vu comme un ennemi. Celui qui était mon ami, celui qui était celui avec qui je pouvais me tenir, celui avec qui je pouvais marcher, eh bien, je commence à le voir comme un ennemi, et comme je le vois comme un ennemi, je me dis que je peux le tuer, je peux l'attaquer. Nous ne devons pas négliger la force de notre regard. Le regard fait beaucoup dans notre vie. Le regard peut construire beaucoup, mais le regard peut détruire beaucoup. Autre exemple, là c'était vraiment au plan d'un peuple, au plan national, mais si on prend au plan plus particulier, en psychologie du couple par exemple, il est démontré, beaucoup d'articles qui parlent de ça, que la santé d'un couple ne dépend pas tellement de ce qui se fait, de ce qui se dit, mais de comment chaque conjoint voit l'autre, ou plus spécifiquement, du discours intérieur que chacun se fait sur l'autre. En d'autres termes, qu'est-ce que je pense de l'autre? Et donc, il y a des études, c'est fort intéressant, sur, par exemple, les cognitions après une dispute. Qu'est-ce que je pense de l'autre? Alors évidemment, si je pense juste « elle me saoule », bon, vous ne pensez jamais ça, vous autres. Ça va, mais si je commence à penser « elle me dégoûte, il me dégoûte, c'est vraiment qu'un idiot, il a rien dans le cerveau », ce sont des choses qui sont des indicateurs, très souvent, d'un couple qui va mal. Qu'est-ce que je pense de l'autre? Comment est-ce que je vois l'autre? Et cela est vrai dans un couple, mais dans toute la communauté humaine. Parmi tous les regards négatifs qu'on peut citer, on peut citer par exemple le regard d'indifférence. Un regard qui ne voit pas l'autre, un regard qui ignore complètement l'autre. On peut citer par exemple un regard de mépris, un regard qui rabaisse l'autre, qui le voit comme moins, qui ne lui donne aucune considération. Un jour, j'ai eu ça. J'avais toujours entendu cette expression, mais je ne l'avais jamais vécue. L'expression « être regardé de la tête aux pieds ». Un jour, ça m'est arrivé de rentrer dans une pièce et il y a une personne qui était là et qui m'a vraiment regardé de la tête aux pieds comme si je n'étais rien du tout. Un regard de mépris. Et dans le texte de Jean chapitre 8, on ne peut pas le rater, on a un regard particulier qu'on pourrait appeler un regard de dureté. Alors bien sûr, il y a aussi du mépris, de l'indifférence, un regard dur. Cette femme est là, au milieu, tout le monde la regarde et tout le monde la regarde avec dureté. Tout le monde la regarde avec mépris. Tout le monde la regarde avec violence. Un regard qui dit le mépris, un regard hautain, un regard qui dévisage l'autre, un regard qui l'humilie, un regard qui ne le respecte pas. La dureté dans le regard. Alors la dureté, ça peut être dans le regard, mais il y a aussi ce qu'on appelle la dureté de cœur. Lorsque nous fermons notre cœur aux autres, lorsque notre cœur est fermé, lorsque dans notre cœur on accumule ressentiment, aigreur. Et la Bible nous dit que la dureté du cœur, la dureté du cœur est la cause d'une majorité de difficultés spirituelles et relationnelles, parce que la dureté du cœur nous rend incapables d'être réceptifs à Dieu. Dieu nous parle, mais nous ne ressentons rien, nous ne sommes pas touchés. Et puis la dureté du cœur nous empêche aussi d'être en relation avec les autres, parce que lorsque notre cœur est dur, la miséricorde, la bonté, la grâce ne diffuse plus avec les autres. Et vous vous souvenez qu'au sujet du divorce, c'est là que Jésus dit « c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a prescrit cela ». La dureté dans les paroles, ça on connaît, la dureté d'une parole, parole qui blesse l'autre. Vous avez jamais vécu ça, hein, vous, non? Une parole qui blesse, une parole qui humilie, une parole qui te fait passer pour un imbécile, une parole qui fait remonter ta pire honte, ta pire tristesse, le truc que t'as pas envie qu'on sache. C'est la parole qu'on balance et qui te fait te sentir moins que rien. La dureté d'une décision. La dureté, c'est quelque chose, hein, parce que nous vivons dans un monde dur. La dureté d'un geste. J'aime bien parler de ça parce que c'est quelque chose de très vécu. Mais aujourd'hui, par exemple, avec les réseaux sociaux, combien de gens ne se font pas humilier avec les réseaux sociaux? Combien de gens, je l'avais déjà raconté, je sais bien que je radote, tout près d'ici, à l'école Saint-Joseph, il y a quelques années, une jeune fille de 14 ans qui s'est suicidée parce que des images dénudées d'elle avaient été partagées. La dureté d'un geste. Oh, c'est un geste compliqué? Non, il suffit d'appuyer sur envoyer. Ça ne coûte rien, c'est pas grave, ça va très vite. Mais c'est tellement dur, c'est tellement méchant. Et ce qui est terrible, c'est que notre regard, positif ou négatif, peut être porté sur tout. Nous pouvons avoir un regard sur le comportement des autres, sur l'habillement des autres, sur la façon de parler des autres, sur la façon de marcher des autres, sur la façon de raisonner des autres, sur la façon de vivre des autres, sur la façon de fonctionner, sur les valeurs des autres, sur les choix des autres, choix de vie, choix de carrière, choix de conjoint, choix familiaux. On peut avoir un regard sur la marche avec Dieu des autres, sur leur façon de prier, leur façon de marcher, sur leur façon d'être. Nous, notre regard peut porter sur absolument tout. C'est ça qui est terrible. Non seulement il n'est pas neutre, mais en plus, il peut porter sur énormément de choses. Notre regard est quelque chose d'essentiel dans notre vie et essentiel dans la communauté des humains. Et lorsque nous lisons l'Évangile, nous voyons un certain nombre de regards qui sortent dans la vie de Jésus. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment des moments où on voit vraiment, on nous parle du regard de Jésus. Alors le premier regard, c'est un regard qui vous est familier, qui nous est tous familiers. On pourrait dire, c'est le regard d'amour et de tendresse. Le jeune homme riche, c'est dans Marc 10, il vient à Jésus. il pose une question à Jésus et il est dit, Marc 10, 21, et il est dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. On oublie souvent ça parce que ça s'est un peu mal fini avec ce jeune homme, puisqu'il est dit qu'il est reparti tout triste. Mais on oublie qu'il est dit cela, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Un regard d'amour, un regard de tendresse, un regard de bienveillance, un regard d'amour de Jésus. Un regard qui dit quelque chose, il ne dit pas rien, c'est un regard d'amour. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Alors on pense évidemment que ce sont ceux qui observent qui peuvent dire ça, qui rapportent ça. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. La puissance du regard d'amour de Jésus. Jésus regarde, il regarde l'autre avec amour. Jésus regarde l'autre avec amour. Un regard qui valorise l'autre, un regard qui respecte l'autre, un regard qui rejoint l'autre, un regard qui dit à l'autre qu'il est important, un regard qui élève l'autre, c'est ça aussi, un regard qui vient dire à l'autre « tu es quelque chose », un regard de tendresse vis-à-vis de l'autre. Deuxièmement, dans l'Évangile, on trouve un deuxième regard que vous connaissez très bien, puisque vos anciens en parlent très souvent, dans leur réunion de prière, le regard de compassion. Et vous voyez qu'il est dit à plusieurs reprises, Jésus fut ému de compassion, ou on peut aussi traduire, Jésus les regarda avec compassion. Le regard de Jésus qui est affecté par les autres, et Jésus qui regarde avec compassion. C'est bien sûr toujours le champ de l'amour, évidemment, mais c'est autre chose, parce que la compassion, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la souffrance de l'autre. La souffrance de l'autre, la situation de l'autre, me fait quelque chose. Jésus les regarde avec compassion. C'est un regard qui dit, ce que tu vis, ce dans quoi tu es, me fait quelque chose. Ce que tu es en train de vivre là, ça me touche, moi. Et finalement, je ne suis pas indifférent, je ne suis pas éloigné de toi, parce que ton vécu devient le mien. Jésus qui voit la foule languissante, il est dit, il est ému de compassion pour elle. Il est ému de compassion et, dans un autre texte, il guérit les malades. Ceci est aussi dit au sujet du fils unique de la veuve, où là aussi, il est dit, Luc 7, verset 13, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Un regard ému par sa situation. Elle est veuve, elle perd son seul et unique fils. Elle est dévastée, sa vie vient de s'écrouler. Jésus la regarde pour lui dire combien il est touché par elle. La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde et qu'il abaisse son regard sur les humains que nous sommes avec grâce, avec compassion. Et en tant qu'enfant de Dieu, quelle est notre référence principale concernant le regard? Qu'est-ce qui est la référence principale pour nous en tant qu'enfant de Dieu concernant le regard? C'est le regard que Dieu a posé sur nous en Jésus-Christ. Ça, c'est la référence pour nous. C'est le regard que Dieu a posé sur nous en Jésus-Christ. Le regard que Dieu a posé sur nous en Jésus-Christ est un regard de grâce. C'est un regard qui voit l'indignité, la méchanceté, l'horreur du péché, la rébellion, mais un regard qui va plus loin pour donner la miséricorde. Le regard de Dieu, c'est pas un regard gentil. C'est un regard qui voit le mal, mais ça a été un regard de miséricorde, un regard qui veut pardonner, un regard qui veut aller au-dessus de la saleté, un regard qui veut pardonner, rapprocher, réconcilier, un regard de grâce et de miséricorde. Et on pourrait dire quelque part, frères et sœurs, le chrétien devrait être caractérisé par un regard de grâce et de miséricorde. Et l'Église devrait être un centre de grâce et de miséricorde. Mais en réalité, beaucoup d'entre nous, enfin moi, pas vous, Nous sommes juste des, allez, disons-le, je l'avoue, des grands bons hypocrites. Nous avons un regard de miséricorde à l'Église, évidemment. Mais notre regard de miséricorde ne continue pas face à cette personne dénudée dans la rue, face à cette personne qui ne ressemble à rien, face à cette personne mal éduquée, face à cette personne qui... Est-ce que vraiment les gens autour de nous peuvent dire que notre regard est spécial, qu'il est vraiment... Souvent, c'est pas forcément méchant, c'est de l'indifférence, souvent. D'ailleurs, on évite de regarder. Et pourtant, nous savons ce que c'est d'être regardé avec miséricorde. Et dès lors, nous sommes appelés à regarder les autres avec la même miséricorde que nous avons été vus. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible parce que ça va très vite. Ça va très vite. Il y a quelques mois, je dois bien faire un an maintenant, j'étais dans un café avec un ancien collègue qui n'est plus collègue. Et du coup, Eric, on n'intervient pas dans une prédication. C'était à Bruxelles, pas sur la place de la Digue. Je ne vais pas là, moi. C'est Nicolas qui va là-bas. Et après, bon, soit. Je vais dans un café, Eric. Je commande évidemment un jus d'orange, comme tu ferais, et comme vous feriez tous. C'est vrai, Jean-Pierre? Oh, il n'a même pas d'esprit de repentance, celui-là. Et donc, ben voilà, c'est avec un collègue et puis une autre collègue, et on est là, on discute. Et puis il y a une femme qui était là et qui criait fort, qui attirait toute l'attention, qui se montrait, elle était fort bien extériorisée, hein, c'est pas ça, mais elle était un peu méprisable à mes yeux. Et je le dis à mes collègues, mais pff, franchement, il y a des gens au beau milieu d'un café comme ça qui... Et je le dis, mais au moment où je le dis, je trouve normal ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas de souci, parce que c'est tellement gros. Quelqu'un qui crie comme ça, c'est je ne sais pas comment je n'ai pas vraiment d'exemple à vous montrer, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je suis le seul chrétien, j'aurais dû être le seul qui dit ou qui se dit « Qu'est-ce qu'elle a dû vivre pour être comme ça ? Elle doit être malheureuse, peut-être que ceci, peut-être que cela. » J'aurais dû être le seul à regarder autrement. Parce que moi, je sais ce que c'est d'être regardé quand on est miséricordieux, quand on n'a pas de valeur, d'être regardé avec miséricorde. Je le sais puisque je suis enfant de Dieu. Mais eux, ils ne le savent pas. Et voilà comment très souvent notre regard fait mal plutôt que de toucher. Et ce regard, le regard de grâce, de miséricorde, c'est un regard de Dieu sur nous, ça doit être un regard de nous sur les autres. C'est un appel pour chacun de nous. Et c'est un regard qui ne doit pas forcément se suivre d'une action, mais c'est un regard qui doit être posé sur l'autre, qui doit s'adresser à l'autre. Regard de grâce et de miséricorde. Lorsqu'on lit l'Évangile, on trouve aussi un autre type de regard de Jésus, qui est d'un autre registre. C'est le regard de remise en question, c'est le regard d'invitation à la repentance. Nous voyons ce regard dans cette fameuse histoire de Pierre, qui est autour d'un feu, et qui, à un moment donné, va, comme Jésus lui avait dit, renier Jésus à plusieurs reprises. Et donc, il dit, ben oui, non, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, etc., etc. Et donc, à un moment donné, il est dit, que Pierre dit à la personne qui l'interroge, qui lui a dit, mais oui, tu étais avec lui, tu étais un Galiléen. Jésus, Pierre répond, homme, je ne sais ce que tu dis. En d'autres termes, c'est pas vrai. Et au même instant, comme il parlait encore, un coq chanta. Et le Seigneur, Jésus, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, comme il lui avait dit, avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Imaginez-vous la scène. Il est autour du feu. Il vient de renier Jésus. Il termine sa phrase. Et à la fin de sa phrase, il lève les yeux et il voit Jésus plus loin qui s'est retourné et qui le regarde. Et immédiatement, le regard de Jésus lui fait comprendre. Oui, t'es tombé. Tu l'as fait. Et ce regard de Jésus, c'est un regard extraordinaire. Parce que c'est clairement un regard qui est en train de lui dire et de le pointer du doigt. C'est un regard qui lui dit, ben oui, tu l'as fait. Mais en même temps, c'est un regard plein d'amour aussi. C'est un regard qui lui dit, allez mon gars, repends-toi maintenant. Et immédiatement, Pierre comprend ce qu'il vient de faire et il pleure amèrement. C'est le regard de la remise en question. C'est le regard qui interpelle l'autre et qui lui dit, allez, franchement, c'est vraiment ce que tu veux faire, tu trouves vraiment bien ça. C'est un regard qui tire l'autre hors de son péché, hors de sa faute. Et c'est aussi un regard que nous sommes censés nous donner les uns aux autres. C'est aussi un regard dont nous avons besoin. Peut-être que vous connaissez quelqu'un de votre entourage dont le seul regard peut vous... Connaissez quelqu'un comme ça? Non? Une personne qui est tellement importante pour vous que son regard vous ferait dire « Aïe !» Un regard qui invite à la repentance. C'est un regard tellement important, c'est le regard du Seigneur sur nous qui nous reprend, c'est le regard que nous pouvons donner avec amour aux autres, c'est un regard qui peut nous sauver, c'est un regard qui peut complètement nous sauver, mais c'est un regard qui est difficile à donner. Parce que c'est un regard qui allie en même temps la vérité, la réprimande et l'amour. Et peu de gens savent donner ça en même temps. Souvent, soit on est tranchant pour faire couler du sang, ou alors on est mielleux et on ne dit rien, et on arrondit les angles et on ne dit pas la vérité. Ça, c'est un regard qui allie les deux, un regard d'amour et un regard de vérité. Et puis le dernier regard qu'on trouve dans la Bible sur Jésus, c'est un regard au moment où les pharisiens amènent à Jésus un homme qui a la main sèche et qui lui disent ben, « Est-ce que nous pouvons le guérir le jour du Shabbat ?» Il est dit dans Marc 3, verset 5, « Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. » Promenant ses regards sur eux avec indignation. Ou une autre version dirait, promenant sur eux un regard indigné. Et une autre version assume et dit, les regardant avec colère. Et certainement que c'est ça qu'il faut traduire et qu'il faut accepter ça. Jésus les regarde avec colère. C'est aussi un regard important, mais c'est une colère, vous le connaissez, vous le savez bien, c'est une colère différente, c'est une colère sainte. C'est une colère qui n'est pas une colère parce qu'on m'a pris ce que j'avais, parce qu'on m'a touché moi, parce qu'on n'a pas fait comme je voulais. C'est une colère qui touche les intérêts de Dieu. Ils sont là en train de jouer avec cet homme pour des questions ridicules et qu'ils ne voient même pas qu'il y a un homme en souffrance. Jésus est en colère. Jésus ressent une sainte colère, une colère pour les intérêts de Dieu. C'est aussi un regard que nous pouvons porter. Et parfois, peut-être que vous avez des gens autour de vous qui ont parfois ce regard de colère. Parfois, ce regard de colère de dire, mais qu'est-ce que c'est dans cette église? Mais c'est quoi cette négligence? Ah oui, parce que
Un regard qui dit, mais qu'est-ce que c'est de ça pour un comportement où on déforme la parole de Dieu? C'est aussi un regard que nous pouvons avoir. Pour autant que ce soit un vrai regard saint, sans méchanceté, sans haine, sans rien, mais un regard qui soit vraiment porteur d'une attention pour Dieu et pour sa volonté. Nous sommes appelés tous à avoir un regard nettoyé, à convertir notre regard. Notre regard doit être converti. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut, frères et sœurs, pour que notre regard soit converti, soit nettoyé? Évidemment, il faut d'abord que notre cœur soit nettoyé. Puisque notre regard est déterminé par ce qu'il y a dans notre cœur. Notre regard est sale lorsque nos cœurs sont sales. Notre regard sur les autres est méchant lorsque nos cœurs sont méchants. Et dans la mesure où notre cœur se purifie, nous pouvons commencer à bien voir les autres. Lorsque nos cœurs deviennent purs, nous pouvons commencer à voir les autres avec amour et avec grâce. La Bible dit que c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les vols, la méchanceté, la fraude. La méchanceté, elle naît dans le cœur de l'homme. La méchanceté, elle n'est pas extérieure, elle ne nous tombe pas dessus, elle vient du cœur de l'homme. Et nous avons besoin du coup d'un nettoyage de nos cœurs, d'un nettoyage de tous nos jugements, nettoyage de toutes nos critiques, nettoyage de toutes nos agressions mentales, nettoyage de toutes nos méchancetés. Un vrai nettoyage pour regarder comme Jésus regarde. Il faut un travail du Saint-Esprit en nous qui nous renouvelle, nous purifie, nous lave pour regarder comme Jésus regarde. Par nous-mêmes, nous ne savons pas, puisque naturellement, nous allons juger, Mais il y a un regard qui peut naître lorsque le Saint-Esprit fait un travail profond en nous. Ce regard peut naître quand Jésus travaille en nous. Et le but du travail du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement que nous en arrivions à regarder sans méchanceté, c'est bien plus que nous puissions progressivement avoir dans nos cœurs les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il y a trois choses. Premièrement, ce travail du Saint-Esprit nous permet d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Deuxièmement, il nous permet de devenir doux et humble de cœur comme Jésus. Et puis troisièmement, il nous permet de revêtir les entrailles de Jésus. Vous connaissez évidemment ce texte, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ces sentiments de miséricorde, de compassion, de charité, ces sentiments qui voient l'autre comme important, ce sentiment d'humilité, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le travail du Saint-Esprit, c'est pas juste pour que tu ne penses plus des méchancetés, c'est pour qu'au contraire, tu puisses développer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les pensées qui étaient en Jésus-Christ, les façons de voir qui étaient en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous sommes appelés à devenir doux et humbles de cœur. C'est Jésus qui dit « car je suis doux et humble de cœur ». Alors, humble de cœur, on voit bien. Humble de cœur, je suis pas là pour écraser, je suis pas là pour dominer, je ne suis pas là pour rejeter. Et je suis doux. Alors, vous savez bien que la douceur dans la Bible, c'est pas forcément ce qu'on voit nous. C'est pas juste être mielleux. C'est ça aussi. Mais la douceur, c'est vraiment ce caractère qui se soumet à Dieu. Et puis ce caractère qui peut prendre les autres avec tendresse. Qui peut donner aux autres de la tendresse. Est-ce que tu penses que si on faisait un petit papier à quatre, et qu'on écrivait sur la feuille 5-6 fois, est-il doux et humble de cœur? Oui, non. Et puis on coupe avec des bandelettes, donc on fait plusieurs bandelettes, et on distribue aux gens avec qui tu es le plus. Pas à la boulangère, mais aux gens avec qui tu es le plus. Et ils sont invités, on leur donne un petit bic pour entourer, oui ou non. Est-ce qu'il dirait oui, il est doux et humble de cœur? Ou non? Alors évidemment, c'est pas oui ou non, mais certainement qu'on peut entourer oui en se disant quand même, voilà, c'est pas parfait, mais est-ce que les gens diraient oui, doux et humble, ou est-ce que les gens diraient non?
Nous sommes appelés à développer ce cœur. Dans Zacharie, il est dit « Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. » Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Et puis troisièmement, nous sommes invités à revêtir les entrailles de Jésus. Vous connaissez le verset Colossiens 3, 12 à 14. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. D'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Revêtir les entrailles de miséricorde, de patience, de douceur. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage à qui vous pouvez lier ce verset? Entrailles de miséricorde, de douceur, de patience, d'humilité, de bonté. Une personne dont vous pouvez dire, ne répondez pas tout haut, hein, surtout. On pourrait avoir une explosion. Une personne dont vous pouvez dire, ouais, allez, entrailles de miséricorde. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il y en a très peu. Très, très peu. Des gens dont on peut vraiment dire, oui, entrailles de miséricorde, de douceur, de patience. Oui, il y en a, mais ça ne court pas quand même les rues, quoi. Même dans une église, ça ne court pas les rues. Et pourtant, c'est notre appel. Il est donc évident que pour avoir un regard transformé, nous avons besoin d'avoir une vie transformée, n'est-ce pas, frères et sœurs? On regarde bien les autres quand on est soi-même transformé. C'est notre transformation personnelle qui sera à l'origine de la transformation de notre regard. Si nous sommes transformés, nos cœurs vont être changés et nous serons en mesure d'avoir le regard de Jésus. Le regard de Jésus. Je ne le dis pas pour faire gnangnan. Je le dis vraiment parce que c'est important. C'est très important. Il y a quelques semaines, nous avions une réunion d'anciens. Je vous cache le contexte, parce qu'on s'en fiche, de savoir s'il y avait de l'eau, de la grenadine, c'est pas ça qui compte. Et à un moment donné, nous discutons de la question des chants dans l'église, de la musique dans l'église, des gens qui sont contents, qui sont pas contents, qui trouvent que. Et on discute. Et à un moment donné, et je le dis vraiment sans flatterie, mais c'est parce que c'est très important, Benoît dit, on parle beaucoup de ces choses-là, mais la seule chose qui compte, ce sont des vies transformées. La seule chose qui compte dans la vie de l'Église, dans la vie chrétienne, ce sont des vies transformées. Et je le dis devant Dieu, ça m'a donné une claque. Je me suis dit, mais comment on arrive à passer à côté de ça? Des vies transformées, c'est tout ce qui compte. Alors bien évidemment qu'il faut s'occuper du reste. Bien évidemment qu'il faut parler des choses. Mais la vie chrétienne, c'est l'œuvre de Dieu en moi et ma transformation. Est-ce que ma vie est en train d'être transformée? Est-ce que mon Église m'aide à avoir une vie transformée? Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que je suis aidé dans ce processus? La question n'est pas seulement est-ce que j'ai des palpitations pendant les cultes?
Est-ce que je me transfigure à chaque culte? Mais est-ce que nous sommes en train, ensemble, d'être transformés? Et je répète, c'est sans flatterie que je le dis. Mais parce que c'est très important que tous nous puissions nous dire, ah oui, une vie transformée, c'est ça qui compte. Pour avoir le cœur de Jésus, nous avons besoin d'avoir une vie transformée. Et pour avoir une vie transformée, nous avons besoin de beaucoup côtoyer Jésus. Lorsque nous côtoyons Jésus, dans la parole, dans la prière, dans la communion fraternelle, alors nous sommes capables de voir comme Jésus. C'est le défunt pape François qui disait que la sagesse, c'est de voir comme Dieu voit. Lorsque nous côtoyons Jésus, nous sommes capables de voir comme lui, de regarder les autres comme lui. Pour avoir un regard aussi qui produise ce que Jésus a produit, nous avons besoin d'avoir un cœur transformé. Il est évident que si notre cœur est mauvais, nos regards ne pourront jamais avoir les effets qu'ont eu le regard de Jésus. Prenez par exemple cet exemple de Pierre. Jésus a eu un regard qui a remis Pierre en question. Mais pourquoi est-ce que le regard de Jésus a remis Pierre en question? Parce que Pierre savait que Jésus l'aimait profondément. Pierre connaissait l'amour de Jésus. Pierre était au courant de la puissance de l'amour de Jésus pour lui. Et donc le regard de Jésus a eu un effet sur lui. Mais si jamais nos cœurs ne sont pas remplis d'amour, nos regards ne marcheront pas. Parfois, nous voulons avoir le regard de Jésus sur les gens et avoir cet effet, mais notre cœur est coléreux et donc ça ne marche pas. Si nous avons le cœur de Dieu, nous pouvons aussi avoir les effets de Dieu. En d'autres termes, si je n'aime pas quelqu'un, même si je lui fais une remarque de la façon la mieux formulée du monde, en ne mettant pas de mots qui fâchent, en mettant de la pommade, ça n'aura pas cet effet-là. Mais si je fais une remarque ou si je regarde quelqu'un qui sait profondément que je l'aime, alors mon regard peut le changer. Alors mon regard peut l'interpeller. Alors mon regard peut faire quelque chose dans sa vie. Ce sont les regards des gens qui aiment qui changent quelque chose. Les gens savent de qui ils peuvent entendre et voir ce genre de regard, parce qu'ils savent de qui ils sont aimés réellement. Mais si on met de la bonne prose, des beaux mots pour parler aux gens, mais que nos cœurs, au fond, ne sont en aucun cas aimés, parfois même des belles paroles peuvent blesser. Même, parfois même des choses positives, ça peut blesser quand ça ne vient pas d'un cœur. Le regard de remise en question, le regard qui invite à la repentance, est un regard qui est difficile. Parce qu'il faut s'être beaucoup laissé travailler par Dieu pour pouvoir le donner aux autres. Dieu nous appelle à avoir, à adopter le regard de Christ, notre modèle, sur les gens autour de nous. C'est le plan de Dieu pour nous. C'est pas seulement que nous parlions, comme on le disait il y a quelques dimanches. Témoigner, c'est pas seulement ce qu'on dit, c'est aussi les attitudes. Nous sommes appelés à avoir ce regard. Et l'impact de ce regard se situe d'abord dans nos vies. On l'a dit pour le couple, on l'a dit pour la famille, on l'a dit pour l'Église. Mais quand on a un regard transformé, ça a d'abord un impact sur notre vie, sur notre famille, sur notre vie d'Église. Mais bien plus, le regard transformé nous aide et nous permet de rejoindre notre monde au nom de Christ, au nom de Jésus. Lorsqu'on a un regard transformé, on est en mesure d'être un ambassadeur de Jésus pour les autres. Parce que notre regard sur les autres est le regard de Jésus. Et donc, quand les gens voient notre regard, ils voient le regard de Jésus et ils sont touchés par l'amour de Jésus. Nous sommes ambassadeurs, missionnés, envoyés, mandatés pour apporter Jésus aux autres. Et c'est en ayant son regard que nous pouvons le faire. Mais quel Jésus allons-nous apporter aux autres si nous les voyons sans grâce, sans compassion, avec dureté et avec froideur. Quel amour allons-nous apporter aux autres si tout ce qu'on retient de nous, c'est notre jugement? Et c'est le cas, il y a plein de certains d'entre nous, dont dans les églises, où on peut dire, j'ai juste été jugé dans l'église. Alors évidemment, il ne faut pas nous la faire. Hein. Juger, ce n'est pas comme la majorité des gens disent, ce n'est pas le fait qu'on t'exhorte, ce n'est pas le fait qu'on te dise quelque chose. Être jugé, c'est d'être condamné, c'est ça dont on parle. Le jugement, condamnation, être condamné quand on t'attache à ta faute, à ton comportement, c'est ça le jugement. Tu n'es que ceci, tu es cela, tu n'es pas digne d'eux. Ce regard doit être transformé. Est-ce que nous connaissons, est-ce que nous avons une idée, est-ce que vous avez une idée de la force d'un regard de tendresse? J'espère que vous avez une idée, que vous avez vécu ça dans votre vie, j'espère. Un regard de tendresse sur moi. Ou un regard de tendresse même quand je ne suis pas dans mon meilleur état, peut-être quand je suis fâché, quand je suis de mauvaise humeur. Un regard de tendresse, un regard de bienveillance, un regard de douceur. C'est puissant, un regard de tendresse, un regard de bienveillance. Notre regard peut relever, notre regard peut encourager, notre regard peut conduire à la repentance. Et c'est au travers de ce regard que Jésus, de notre regard, que Jésus veut rejoindre ce monde méchant et dur. C'est au travers de ce regard que Jésus veut visiter ce monde difficile. Alors bien sûr que nous n'allons pas avoir un regard qui change toute la planète, évidemment. Même pas toute la rue de Baillemont, c'est impossible. Mais nous pouvons avoir un regard qui touche l'un et l'autre, autour de nous, dans notre vie, dans nos contacts, dans les inconnus que nous rencontrons. Est-ce que nous sentons la force d'un regard qui fait sentir aux autres l'amour et la miséricorde de Dieu? C'est en tout cas notre appel, manifester Christ à notre prochain en adoptant son regard. Amen. Père, au moment de recevoir ta parole, nous disons, je dis, évidemment, mon indignité devant tes exigences, ton appel. Mais en même temps, Seigneur, nous venons devant toi pour te demander, avec notre frère et sur l'exhortation de notre frère, pour te demander de nous aider, Seigneur, à avoir des vies transformées, des cœurs transformés, pour voir comme tu vois, pour voir avec grâce, pour voir avec miséricorde, pour voir aussi avec colère parfois, pour voir avec un regard qui invite à la repentance. Seigneur, fais-nous grâce, aide-nous, nous sommes incapables, nous sommes, même quand on entend tout ça, on se dit « mais c'est trop haut, c'est trop compliqué ». Mais nous savons que tu peux faire ton œuvre dans nos vies pour que nous puissions avoir un regard qui est transformé par toi. Merci Seigneur, sois loué, sois béni Père, au nom de Jésus. Amen.